Madame Ablan, bad réalisateur TAI, il va s'occuper du reste. On y va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et autres rêveurs impénitents, je vous salue bien bas et vous dis bienvenue dans Shazam, l'émission qui flirte de concert entre la culture et l'impertinence. Je suis Red Amenassel en compagnie de Aïssa Mladi. Nous allons tenter pendant 60 minutes de rouler à tambour vert sur l'autoroute de l'anticonformisme sans casque et de la culture sans ceinture. Aïchek Lille, du moins, essaye en écoutant Shazam sur la 3, l'émission qui lève son verre à ceux qui marchent de travers. Et pour cette émission exceptionnelle, comme toutes les autres, nous allons parler de TIC comme chaque mercredi avec notre chroniqueur des ténèbres, à savoir Karim Mbarak, qui a invité pour l'occasion notre ami Semir Blik, l'éminence grise derrière Gen 42. C'est un pur plaisir de le recevoir dans l'émission. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles et qui le prouve tout de suite. C'est parti. Et vous êtes toujours en direct sur Radio Alger Chien 3. Vous écoutez Shazam en compagnie de mon compère Karim Mbarak. Bonsoir.
Bonsoir Alata, bonsoir Samir. Bonsoir
cher ami auditeur. Eh bien, tu as spoilé tout de suite, hein, puisque nous recevons ce soir notre ami Samir Blik en personne. Samir, bonsoir.
Bonsoir Karim. Pardon, bonsoir Reda.
Qu'est-ce qui se passe dans cette émission?
Bdel et Karim, donc je me zèle sur la lancée.
C'est toujours l'influence maléfique de Karim Mbarak encore une fois. Allez Karim, puisque tu as pris la parole, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir?
Ce soir, on va donner un grand coup de bain aux petites entreprises, aux nouvelles entreprises qui se créent. Parce que en 2020, comme ça fait 10 ans aussi, il faut être présent sur Internet.
C'est un impératif de survie, maintenant.
Exactement. Mmh. Quand on crée une nouvelle entreprise, il faut impérativement être présent sur Internet. Donc, le souci qu'il y a, c'est que si on s'adresse à une agence digitale, directement, c'est que ça va coûter les yeux de la tête. Donc,
c'est si cher que ça, messieurs ?
En fait, non. C'est pas plus que ça coûte cher. C'est que quand on démarre, on n'a pas d'argent.
À la base, donc, le petit investissement minimal.
Exactement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir en démarrant, surtout qu'on soit en train de produire quelque chose, donc on a dû investir sur une machinerie,
fait, sur des gens, etc. Mm-hmm.
Si on démarre dans le service, on a à peine de quoi se payer son salaire à soi. Donc, se permettre d'externaliser une fonction de l'entreprise, que ce soit que le web marketing ou que ce soit les ressources humaines ou autre chose, ça coûtera cher.
Voilà, exactement, comme il a dit lui. Donc, le plus important, c'est de connaître au moins, c'est-à-dire une méthode, ou quelles sont les actions à faire quand on commence. Et Samir Blik va donner un grand coup de main. Je remercie encore une fois d'avoir accepté de parce que c'est presque un tutoriel sans image. Quelles sont les étapes, Samir? Déjà, où est-ce qu'il faut être présent quand on crée une nouvelle entreprise?
Et sur quel réseau social, voilà, de quelle manière communiquer
sur un site web ou sur les réseaux sociaux, et comment le faire avec le minimum.
Comment te mettre au chômage, en fait, Samir?
Tout à fait, en fait, mais c'est ça l'idée. Comme toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley le disent et le savent, c'est aujourd'hui, you have to put yourself out of business before someone else does it for you. Donc, il faut vous mettre en banqueroute, si vous voulez, avant que quelqu'un d'autre le fasse sans charge. Et donc, tout le temps se challenger et rester dans cet esprit. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses. En plus, on aime bien aider, donc voilà. Basiquement, qu'est-ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut être présent? C'est une question qui revient très souvent. Et la réponse est, si vous le pouvez, partout.
Ouh.
Voilà. Donc, si vous le pouvez, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Et comme on dit toujours, si on n'a pas d'argent, ben on a du temps. On n'a pas le choix. Ben oui. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'appeler un menuisier pour travailler à la maison, on le fait soi-même. Voilà. C'est la même chose pour le web marketing. Et l'avantage avec ça, c'est qu'Internet est bourré de ressources gratuites qu'on peut utiliser pour savoir comment faire. Donc déjà, je recommande à tout le monde de commencer à s'exercer. Il n'y a pas mieux que de s'essayer pour pouvoir comprendre comment fonctionnent toutes ces choses qui se retrouvent sur Internet, que ce soit des réseaux sociaux, des sites web, la publicité et ainsi de suite. Donc j'invite tous ceux qui veulent savoir, avoir plus de détails, donc à voir l'intervention que j'ai faite à Algérie 2.0 avec Karim justement.
Justement, on va avoir un résumé ce soir.
Exactement. Qui était donc comment ne pas payer une agence digitale en 2020.
Tu as vu des menaces suite à cette conférence ou pas?
Légèrement. non, ça a été gentil et de bonne école parce que l'intention derrière a été comprise. C'était vraiment justement adressé à ce type d'entreprise ou de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer une agence, de pouvoir justement avoir les outils nécessaires.
D'accord. Donc, ça ne rend pas évidemment obsolète le savoir-faire
pas du tout.
De professionnels du domaine.
Exactement. Parce que justement, les entreprises qui ont les moyens de le faire n'ont pas le temps à dédier, ils ne vont pas créer
un département
spécifique pour ça et prendre le temps et perdre du temps justement à le construire et à le développer pour qu'il devienne efficace. Donc, effectivement, pour ce type d'entreprise...
Ils ont besoin de résultats tout de suite.
Exactement. D'accord. C'est pour ça qu'ils vont toujours passer par des agences. Donc,
même s'il y a eu un scandale récemment, on ne va pas citer l'opérateur qui avait fait une espèce d'appel d'offres pour une espèce de campagne. il avait, comment dire ça de manière diplomatique, qui ne nous valent pas un procès. En fait, c'était le travail des soumissionnaires que l'opérateur a repris presque mot pour mot à son compte. Mm-hmm. Donc, tiens, c'est une bonne question, ça. Comment se protéger dans ce cas de figure ? D'ailleurs, pour vous deux, est-ce que premièrement, le plagiat, on va dire plagiat, est-ce que le plagiat était manifeste ?
Alors, je parle pour
moi. Faire très attention, justement. Ne citons personne, c'est vraiment un cas d'école. Hein. C'est juste pour que ceux qui nous écoutent fassent gaffe, fassent attention pour les prochaines fois.
Justement, je parle pour moi dans ce cas. On a participé avec mon agence à plusieurs pitchs, à plusieurs soumissions, etc. Et on va du principe où il y a le risque potentiel d'être copié ou bien que l'idée soit prise et reprise par quelqu'un d'autre qui est moins cher, ça existe. Il n'y a aucun moyen de...
Il y a une espèce de contrat moral entre l'agence et le missionnaire et le client, c'est
un
minimum.
Mais quand on est dans un écosystème ou dans un environnement où tout est sur Internet, c'est-à-dire du moment où on veut se faire connaître, à un certain moment, vous allez devoir dévoiler ce que vous êtes en train de faire. Si tu vends quelque chose... ça va savoir ce que tu es en train de faire. Et vu toute l'information gratuite qui existe sur Internet, refaire la même chose, ça, c'est pas si compliqué. Mm-hmm. Moi, pour moi, si quelqu'un vous copie, c'est que vous faites quelque chose de bien, à la base. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais non, ça, mais c'est jouer le good guy là. Aussi. C'est-à-dire que...
Moi, j'ai eu une expérience, ça fait très, très longtemps, sur un salon très, très connu. Mm-hmm.
Je pense qu'on a compris, je crois.
Et j'avais fait une proposition d'affiche. Mm-hmm. Le truc sur l'affiche était, on avait utilisé c'était d'ailleurs nouveau sur Illustrator, le brush, c'est-à-dire en crayon. Toute l'affiche était basée sur ça.
D'accord.
On a soumissionné avec notre agence. Notre agence n'a pas eu ce marché. Mm-hmm. L'affiche qui sort avait adopté le même,
style. Ouais.
Le même style à quelques différences près.
Alors, commence la coïncidence, où s'arrête la bonne foi, commence le plagiat et réciproquement.
Voilà, moi j'ai été jusqu'à demander des explications.
À qui ? À l'agence qui a eu le marché
Non, l'agence elle est pour rien puisque l'agence.
Ils ont exécuté.
Non, c'est pas que moi je pense. L'idée avec quoi je suis sorti, c'est que les responsables. L'affiche leur a plu, le concept leur a plu. Peut-être que c'était cher. Donc, ils ont proposé à la nouvelle agence qui a proposé moins de faire dans cet esprit.
Ça manque cruellement d'élégance.
Mais justement, on n'est pas là. Alors, on est en train de parler de business. 2007.
Mais on peut faire du business en gentleman, hein, c'est tout à fait faisable.
Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que quand on est de soi-même, c'est-à-dire que...
Nous-mêmes, ici à Shazam, on a été victime de plagiat. Dieu sait si on a été pompé en large et en travers.
Mais justement, quand c'est toi qui es au centre du truc et qu'on est en train de te voler, tu as deux choix. Soit tu passes à la défensive, soit tu t'en fous et tu continues à avancer. Dans mon cas, je préfère continuer à avancer parce qu'il n'y a aucun moyen de se protéger.
Fait mal sur le coup. Hein,
c'est clair que ça fait mal.
Par exemple, ça mature lupiné pendant 2-3 jours. Après, évidemment, on passe à autre chose, on rebondit.
C'est ça.
Mais voilà, je ne trouve pas ça d'une élégance extraordinaire dans l'absolu.
Je suis complètement d'accord, mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Il n'y a aucun moyen légal de se défendre, à part si, à chaque fois qu'il y a une soumission, tu fais signer un contrat de 25 pages.
Et ça te grille avec les...
Directement, ça te coupe tes chances.
Donc pour ce cas de figure qu'on vient d'évoquer encore une fois, celui du grand opérateur de téléphonie avec cette agence.
Ouais.
Quelle est la suite de l'affaire ? Ils ont communiqué sur les réseaux sociaux.
Ils peuvent les attaquer en justice, ils peuvent communiquer, ils peuvent leur faire
ils
un scandale.
Ils sont protégés ?
Non.
Donc ça sert à rien d'attaquer en justice.
Oui.
Ça vient le bénéficiaire qui déprime plus vite que son ombre.
Non, mais non. Il y a une chose, attends. La dernière fois, on avait reçu... une dame qui était dans la protection intellectuelle.
Tout à fait.
Tu te souviens ?
Ouais, ouais.
Et là, ce qu'elle avait expliqué, c'est que...
À prendre avec des pincettes, voilà, c'est ce que dit la dame.
Réserve. Quand le nom ou quelque chose est cité Par exemple, moi, je cite un truc, j'imagine une marque, je l'écris quelque part, je la transfère à quelqu'un, oui. Bien, et tout de suite après, il y a quelqu'un qui se dit, ça, c'est ma marque. Il doit prouver qu'il a communiqué sans l'INAPI, sans rien du tout. Maintenant, cette agence qui a...
Sauf que ça ne fonctionne pas dans les faits. Hein. Je l'ai, oui. je l'ai expérimenté de première main.
C'est extrêmement compliqué, ça prend énormément de temps.
Il y a une traçabilité sur les réseaux sociaux. On a bien prouvé qu'on était les premiers sur le coup, etc. etc., etc. Mais voilà, le gars a quand même déposé le concept. Donc, en fait... Je pense qu'il y a une espèce de vide
justement,
juridique.
C'est pas qu'un vide juridique, mais ça, c'est à l'international. Ce type de problématique. Merci. Non, j'y arrive pas aujourd'hui. Donc, pour ce type de problématique, il n'y a aucun moyen, parce que ça reste très subjectif. Tout le monde peut avoir cette idée en même temps. Ce n'est pas quelque chose.
Quand même, lorsqu'on a la même police de caractère, lorsqu'on a le même nom, lorsqu'on a le même client, c'est plus qu'une coïncidence.
Je sais que c'est plus qu'une coïncidence, mais légalement.
Tu es ingénieur, tu connais le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est exactement ça. Oui, c'est qu'au final, la probabilité de présence de l'électron.
Tu ne peux pas le prouver sans aucun doute. C'est ça, en fait. Et essayer de le faire, ça va te faire concentrer sur la problématique et t'empêcher d'avancer. Surtout que quand on est créatif, surtout que dans ton métier ou dans notre métier, donc dans la partie créa pour les agences de com, la créativité, ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et c'est fini. Si c'est le cas, effectivement, tu vas te battre tout le temps pour essayer de garder ton truc. Soit tu es créatif et tu peux continuer
surenchérir et faire des... Quand on aborde les idées, à chaque fois ce que je dis aux jeunes, c'est que celui qui vous a volé une idée n'a volé que l'idée.
C'est ça.
Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Même le truc qui a été volé à l'agence, ça ne veut pas dire que ça va être le boom.
La différence, ça va être l'exécution.
Exactement. Et vous êtes créatif, vous trouvez toujours de bonnes idées à résoudre, des problèmes à résoudre, vous allez toujours en trouver. Mais celui qui vous a volé, il n'aura que cette idée et que ça ne veut rien. Ça ne veut pas dire que ça va marcher.
On nous le dit souvent, par exemple, pour le nom de l'émission Shazam, alors ça me donne l'occasion d'y répondre. C'est un mot qui existe dans la pop culture depuis les années 20, c'est le super-héros, c'était une émission de télévision au tout début, c'était le nom en fait, d'un groupe de résistants. En fait, c'est un mot qui a été utilisé dans tous les médiums, sauf la radio.
Ouais.
Donc évidemment, je me suis dit, bon... Puisqu'il existe en cinéma, il existe en littérature, il existe en BD, il existe en sculpture. Pourquoi pas le faire en radio ? Donc, l'idée, en fait, c'est.
Mais c'est pas comme si tu te mettais en concurrence avec DC Comics, avec, quoi.
Voilà. On va pas déconner aussi. Et avec l'application du même nom, on est. Donc voilà.
C'est ça.
Where did my passport ?
Revenons à nos moutons.
Voilà. Effectivement, parce que là, on a parlé de beaucoup de choses, sauf de ce qu'on avait dit.
On attend. Donc,
une jeune agence.
Très bien.
Plutôt une jeune entreprise.
Une jeune entreprise, tout à fait.
Elle a tout préparé, elle a son laptop, ses outils, c'est sa solution.
Sans produit ou service.
Sans produit ou service. Maintenant, il faut être présent sur le web.
Exactement.
Par quoi commencer ? Quelles sont les priorités ? Tout à l'heure, tu as répondu sur tout.
Il faut être sur tous les réseaux. Ça demande du temps.
Pas forcément, justement.
Oui, je sais qu'il y a des plugins.
Sans plugins, sans rien du tout. On va parler
juste la gestion de la page Facebook de Shazam, ça me prend minimum une demi-heure lorsque je suis en forme. Mm-hmm. Ça prend du temps quand même, répondre aux gens.
On est en train de parler de quelqu'un qui démarre. C'est-à-dire que répondre aux gens, il n'y a personne.
Là,
tout de suite, tu commences à faire à zéro.
C'est moi.
La différence avec ce que tu fais, c'est que toi, tu as un média lourd que tu utilises et qui fait que l'audience vient toute seule. T'as pas à faire... La communication, c'est la base de ton métier. Donc, contrairement à quelqu'un d'autre qui vient d'ouvrir, moi par exemple, je prends mon exemple que je connais bien. 2014, j'ouvre mon agence, le nombre de followers,
c'est pas si évident moins un. N'oublie pas qu'avec l'avènement d'Internet, la radio est en net recul, encore une fois.
Oui, mais...
Et que le temps où Selim Sadoun pouvait rameuter des millions de personnes.
On parle pas de millions, mais quand même. C'est-à-dire que tu as littéralement un micro que tu utilises où tu peux justement émettre sur les ondes, les gens vont savoir que ça existe et
mais c'est plus l'âge d'or de la radio, c'était
non,
juste
je dis pas
ce que je voulais dire. Voilà.
On ne parle pas d'âge d'or, on dit juste que tu as un auditoire.
Salim Sadou, pour revenir à lui, une fois il avait demandé s'il pouvait faire une balade en hélicoptère et il y a le commandement de la gendarmerie qui est venu, qui l'a pris en hélicoptère.
Voilà.
Moi, je n'ai pas ce genre de pouvoir.
je dis juste que la différence entre toi et le gars qui vient de lancer sa boîte, c'est que toi, tu as déjà un outil de communication qui est fait pour ça.
D'accord.
Donc, prenons cette personne qui commence et est à zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a zéro follower, zéro fan.
Inconnu au bataille.
Il a ses amis à lui et ses followers sur ses réseaux sociaux s'il les a déjà. Donc, en admettant que cette boîte a déjà fait sa mini-étude de marché, qu'ils ne font pas forcément n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils savent à qui vendre quoi et où et comment, un minimum. Donc, cette boîte a déjà son proof of concept, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut basiquement, s'ils peuvent rapidement un site web, s'ils n'ont pas les moyens de développer un site web, ils peuvent aller sur un blog gratuit du moment où ils ont quelque part où ils peuvent publier du texte.
Les réseaux sociaux n'ont pas signé la mort des sites web traditionnels?
Pas du tout. Justement, la grande différence, donc quand on parle de contenu sur Internet, on a deux types de contenus principaux. Du contenu cherchable, indexable, ça va vers Google et ça, c'est les sites web.
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, quand tu vois le classement des sites les plus visités au monde, Google et YouTube et tous les autres sites dans le cas du groupe Google sont toujours au top. Et donc avec eux, il y a tous les autres sites d'info, etc. qui suivent. Donc le texte et les sites web classiques vivent toujours. Les réseaux sociaux ne les ont pas tués. Le deuxième type de contenu, c'est un contenu divertissant. Et donc quand on est sur les réseaux sociaux, on scrolle de manière infinie jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous intéresse.
De manière infinie pour ceux qui ont le temps.
Oui, non mais quand je dis de manière infinie, parce que la timeline, elle est infinie. Et donc on scrolle et jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on like, on commente, on partage, etc. Ou alors on regarde si c'est une vidéo. Donc voilà les deux types de contenu.
Enfin actif et passif presque. Voilà.
Exactement. Donc un répond à un besoin, à une recherche là tout de suite, et l'autre c'est c'est sympa ce truc.
Voilà.
Voilà. Donc pour ça, donc pour le premier, je l'adresse en premier parce que tout le monde a tendance à l'oublier, c'est le blog, le texte. Google ne comprend que le texte. Donc il nous faut quelque chose où on va mettre du texte. Ensuite, tous les réseaux sociaux.
Quand tu parles de texte, pour que ça soit clair. C'est au moins une présentation de l'entreprise, un téléphone.
Non, on va pas parler de quel est le contenu lui-même.
Du site.
Je veux juste qu'on différencie que Google, d'accord. Il te faut du texte. Google ne comprend pas les images, Google ne comprend pas les vidéos, Google ne comprend que le texte.
Oui, non, mais en termes de référencement.
En termes de référencement, si tu mets une image, il lui faut son alt text, il faut une description pour que Google la comprenne. Donc, on revient au texte. La vidéo, en fait, il fait la transcription du son vers du texte et de là, ça sort aussi. Bref, donc on revient, on a du texte, on a les réseaux sociaux. Si on prend l'Algérie, donc on va être présent automatiquement sur Facebook parce que c'est le plus gros en Algérie. Oui. Numéro 2, Instagram. Numéro 3, pardon, j'ai oublié, YouTube, premier, c'est pas Facebook. YouTube en premier.
Il faut être présent sur YouTube.
Alors justement, je vais juste lister, ensuite je vais dire pourquoi.
D'accord.
Donc YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Instagram et Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux, bref. L'idée, c'est être présent partout. Ça ne veut pas dire qu'on va tout utiliser de la même manière.
Évidemment.
Ni utiliser à la même intensité ou donner la même importance. Être présent partout, c'est le premier truc. Déjà, rien que pour le risque de notre présence.
Déjà pour prendre le nom.
Exactement. Si tu prends pas ton nom, quelqu'un d'autre va pouvoir le prendre. Si ce n'est pas déjà pris, de toute façon.
Ouais. Moi, mon nom, il est déjà pris.
Ouais.
Donc, j'ai dû ajouter Angé.
Donc, on revient. Donc, on revient à... Pourquoi YouTube? En fait, quand on va produire du contenu pour Internet, il est bien de pouvoir produire les quatre types de contenu qui existent sur le web. Texte, image, vidéo et son.
Okay.
Parce qu'en fait, on n'a pas envie de mettre de la friction entre nous et le consommateur. Si quelqu'un préfère lire, il aura le texte. Si quelqu'un préfère la partie visuelle, ça va être les images. Si quelqu'un veut la vidéo, c'est le plus populaire de toute façon. Et donc voilà. Mm-hmm. Et pour ceux qui, comme moi, écoutent beaucoup de podcasts ou la radio, ils écoutent Shazam et ils ont des podcasts. Donc maintenant, comment faire pour produire tous ces contenus-là de la manière la plus simple du monde, sans que ça te prenne une armée d'employés.
Sans que ce soit budgétivore, évidemment.
Exactement.
Ni chronophage.
Donc, moi, je vais donner aujourd'hui deux astuces qui sont super simples à appliquer. Donc, une, c'est ce qu'on appelle la stratégie pyramidale de création de contenu. Mm-hmm. Tu commences par créer un contenu pilier, donc, où tu vas prendre du temps. Ça va te prendre, donc, on va créer, par exemple, cette session. On va la filmer. Donc, en la filmant, on aura la vidéo, on aura le son. Ensuite, on peut soit retranscrire...
Mise en abîme, on va filmer tout de suite.
Exactement. Donc, on a la vidéo en filmant. On a le son depuis le départ. On a aussi, donc, à partir de la vidéo, on peut prendre des screenshots ou prévoir un shooting avant et après. Et on aura le texte à travers la retranscription de ce qui s'est dit, genre les idées générales, machin truc, etc. Ou alors, comme toi, tu as ton texte que tu as préparé pour un mini script au départ pour avoir les idées générales. Et voilà, tu as les quatre formats en une seule session. À partir de là, ça te prend juste un effort d'édition. Mais léger, hein. Tu mets une intro, une outro que tu peux télécharger gratuitement, tu mets une petite musique que tu peux télécharger gratuitement de YouTube ou de Facebook.
De toute façon, c'est le modus operandi des sites d'information à l'étranger,
ensuite,
de manière générale.
Ensuite, tu peux découper les meilleures séquences.
Voilà.
Donc, comme cette séquence-là, comme quand Kalem a dit un petit truc drôle, une citation qu'on aurait dit. Oh,
c'est trop drôle, n'exagérons rien non plus.
Donc voilà, et avec tout ça, à partir d'une session, tu peux sortir 30 à 50 contenus différents que tu peux distribuer sur différents réseaux. Et donc, tu as ton contenu sur la semaine à partir d'une seule session créée. Donc, ça, c'est la première stratégie.
Quelle est ?
Donc, on doit créer les quatre contenus, mm-hmm. prendre un petit peu de temps pour en faire sortir c'est-à-dire sortir du contenu pertinent du contenu des vides ou des ou des...
Tout à fait.
Donc, comment on l'envoie maintenant ?
Maintenant, tu as tes vidéos, tu les uploads sur YouTube, sur ta chaîne, tu mets juste un titre qui soit... Donc, là, on répond à de la recherche. Donc, c'est un titre recherchable, mm-hmm. donc qui répond à une question. Ensuite,
comme on est dans une entreprise algérienne, ouais. faut-il aller, parce qu'il y a un grand débat sur les noms, les types de recherche, faut-il aller vers la recherche Derija mm-hmm. ou la recherche française ?
Quand on démarre, ce n'est pas super important. Ouais. Parce que quand on démarre, tu as besoin de décrocher tes premiers clients.
Voilà.
Donc, tu décroches des clients qui vont plus comprendre ce que tu es en train de faire et qui vont être plus en adéquation avec ta culture, la langue, etc. Donc, si tu es à l'aise en arabe, tu le fais en arabe. Tu es à l'aise en français, tu le fais en français. Tu es à l'aise en anglais, tu le fais en anglais. Tu es en darja, tu le fais en darja. Tu vas toujours trouver le public qui correspond à ce que tu es en train de faire. Ensuite, en grandissant, avec cette stratégie, tu vas commencer à attirer des clients, tu seras plus à l'aise, tu pourras recruter. Et là, tu peux t'amuser à le faire dans plusieurs langues, faire des sous-titres ou rajouter autre chose.
C'est ce qu'a fait une amie instagrammeuse. Hein. Elle s'intéresse énormément à la santé mentale, notamment. Elle avait commencé en français. Mm-hmm. Et elle a vu que ça ne marchait pas des masses. Mais elle a très rapidement switché en derja, voire en kabyle pour certaines sessions.
C'est ça.
Et ça marche du tonnerre de Dieu.
Mm-hmm.
Mais cette réflexion, elle n'a pas eu dès le départ. Hein. C'est-à-dire qu'elle s'est pris un mur d'indifférence pendant plusieurs mois avant de comprendre ce qui clochait. Et là, ça commence à fonctionner.
Exactement.
Même sur Facebook, moi, je l'ai dit, je fais deux publications, une en français type et mm-hmm. l'autre en arabe. Mm-hmm. Déjà, vous allez voir...
Ah oui, la différence est violente.
Elle est non.
Oui.
On dirait que le premier en français va être marrant.
Oui, mais il faut éviter de le faire aussi pour des raisons idéologiques.
C'est ça, en fait.
Business, si on fait du business, on touche celui qui parle derja, celui qui parle en anglais.
Mais justement, là, on n'est pas à cette problématique. Aujourd'hui, on est à la problématique de on démarre. D'accord. Quand tu démarres, tu n'as pas le choix. Tu peux pas prendre le luxe de faire quelque chose qui ne te correspond pas, qui te ressemble pas.
Donc, ça prend du temps aussi. La exactement. En trois langues. Ça triple en fait le.
Donc nous qui avons grandi où on a étudié en français, donc fait nos études en français galéthique, donc on a beaucoup plus de facilité maintenant à communiquer dans cette langue. Par contre, tu me dis
quand j'ai fait des études de l'arabe, hein, je sais pas pour toi, mais
non, mais après le primaire, t'as bien le
primaire, c'est même le lycée,
oui, mais après t'as fait la fac et à la fac c'était en français,
effectivement.
Voilà, et moi, je sais pas en combien de temps t'as fait la fac, moi je l'ai fait en 9 ans, donc ça fait 9 ans de
c'est
français
bien,
intensif.
Tu as pris ton temps, c'est
à l'aise. Non, j'ai beaucoup travaillé pendant
C'est bien, c'est super.
C'est des francs 3 ans.
C'est toi qui as dit qu'il était drôle tout à l'heure. Hein.
Non, il l'est, moi je confirme.
Ouais. Ça, c'est pour un stand gratuit.
Juste pour le contenu,
ouais.
Donc ce que tu es en train de dire, c'est que celui qui est à l'aise, même il est à l'aise en arabe, il dit le contenu en arabe.
Exactement. El Mohamed démarrer.
Voilà.
C'est ça.
Alors, maintenant, le choix des réseaux.
Le choix des réseaux.
Est-ce qu'on communique de la même manière sur Facebook,
pas
sur Insta, sur Twitter? Moi, par exemple, je sais que sur Twitter, c'est vraiment le compte journaliste pur. C'est-à-dire c'est de l'information pure et dure, instantanée, en temps réel. C'est des vidéos des manifestations, c'est des articles qui m'ont plu, etc. Sur Facebook, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire ça va de mes coups de colère à le partage des reportages, à ce qu'on fait ici à Shazam. Instagram, j'y vais rarement, je pense que c'est générationnel. Donc voilà à peu près
ma consommation. Il faut être photogénique.
Il faut être photogénique aussi, c'est pour ça que je fais de la radio.
Alors justement, en fait, on va faire...
Est-ce que c'est une bonne approche déjà ?
Pour toi, en fait, justement, il n'y a pas de règles préétablies pour chacun de ces réseaux. C'est juste que par rapport à ce que tu fais, par rapport à toi, mm-hmm. donc le contenu que tu vas produire doit faire du reverse engineering de ton audience. Donc, dépendant de ce que tu es en train de faire, tu dois comprendre quelles sont les problématiques et comment cette audience consomme son contenu sur chacun de ces réseaux. Donc, quand tu vas commencer, encore une fois, pas le luxe de faire tout ça, tu vas juste publier et avoir des retours. C'est ça, la magie des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas ça, que les réseaux sociaux, c'est fait pour communiquer et avoir des retours. Donc, je reçois très souvent des demandes. Comment on fait pour bloquer les commentaires ? On ne veut pas des commentaires négatifs. Je comprends pas.
Ah si, moi, je comprends tout à fait. Tu ne reçois pas autant d'insultes que nous, c'est bien. Quand tu es dans le public, je t'assure que tu en reçois. Mais tu en reçois, mais...
Oui, mais justement, mais il faut justement faire la part des choses. C'est-à-dire que ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire des retours négatifs ?
Tu as plusieurs catégories.
Quelle est ?
Pardon, je peux intervenir. Quand on parle de personnages publics,
oui.
c'est
à mon petit niveau, hein, toute proportion,
quand on parle de produits ou de services,
on est d'accord.
Lui, il ne peut pas échapper.
Oui, Une entreprise non plus ne peut pas y échapper.
Il y a des gens moins.
Oui, tragédie.
C'est parce qu'il est en face caméra.
Oui, mais c'est clair. Mais justement, alors
je reviens sur le commentaire qui est critique, qui est intelligent, qui est argumenté, et entre l'insulte pure et dure. Donc on va pas non plus parce que ça fait boule de neige très rapidement. Tu le sais mieux que moi.
D'où le community management. Justement, c'est ça le métier du community manager, c'est de gérer la communauté. Quand il s'agit de toi, par exemple, où tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un personal brand, donc tu es une marque aujourd'hui.
Je suis une marque.
Ouais.
parce que qu'est-ce qu'une marque ? Une marque, c'est quelque chose d'identifiable. Et aujourd'hui, tu es identifiable sur les réseaux sociaux. Le concept moderne de personal branding, c'est le concept qu'on connaît tous d'avant, qui est la réputation. Tu as une certaine réputation aujourd'hui qui est connue en Algérie. Tu es un homme de la radio et tu as donc un auditoire et les gens te connaissent. Et du coup, tu ne vas pas pouvoir plaire à tout le monde.
Et heureusement, d'ailleurs.
C'est ça. Donc, et du coup, c'est ça, en fait, quand on dit personal branding aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu chic, ça fait un peu pompeux, etc. Mais basiquement, c'est ça, c'est construire ta réputation. Alors, il y a quelques années, on parlait de e-réputation.
Ouais.
Ce terme a complètement disparu de l'écosystème. Et on parle aujourd'hui juste de personal branding.
C'est quoi le distinguo, la différence entre les deux?
Quand on parlait de e-réputation, on parlait de comment gérer sa présence en ligne et gérer les bad buzz, etc. Basiquement, ça revient à du community management. Tu ne peux pas gérer donc, une crise si tu n'es pas déjà présent et que tu as déjà planifié en cas de crise, qu'est-ce qui va se faire. Ce qui arrive 99% des cas, quand des marques ont des problèmes, c'est là où ils s'y intéressent. Or, c'est trop tard. Donc, on revient à notre petite entreprise qui se lance. Donc, publier partout. Facebook, du contenu qui va être pour attiser la curiosité et être divertissant ou informatif, mais vite fait.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça a l'air bien. Voilà, on clique sur like.
Très bien. Et du coup, avec des titres un peu légèrement racoleurs, sans être complètement... C'est-à-dire qu'ils
c'est pas du voici.
Voilà. Exactement. Ni du... BuzzFeed, voilà.
Bon, BuzzFeed.
Exactement, non, c'est les rois du monde par rapport à ça. Donc ensuite, si tu passes à LinkedIn, ça va être la même chose avec un ton beaucoup plus professionnel plus carré. Et l'avantage de LinkedIn, si on est dans le B2B, c'est-à-dire si on vend à des entreprises, c'est magnifique parce que tu sais exactement à qui tu peux vendre et quel est le poste, le responsable, le décideur, tu peux trouver directement. Si on passe à Instagram, là, on parle encore un truc de masse. Et du coup, il faut plus aller dans le visuel, ça doit être design, ça doit être beau, etc. Mmh. Voilà. Si on passe à Twitter, c'est complètement différent. Twitter, c'est de la conversation. C'est le seul réseau social qui est resté 100% focusé sur la conversation. Donc, quand tu l'utilises, toi, comme tu dis dans le journalisme, c'est là où l'info tombe. Et dès que tu partages quelque chose, tu as 15 millions de personnes.
Oui, c'est télégraphique et c'est hyper viral.
Et donc là, en fait, ces boîtes-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Elles doivent trouver tous ceux qui sont en train d'avoir des conversations autour des sujets qui nous intéressent, donc autour des produits ou des services qu'ils vendent, et du coup, pouvoir justement participer à ces discussions pour se faire connaître. YouTube, c'est clair, de la vidéo cherchable, et TikTok et Snapchat. Donc ça, c'est des réseaux très, très jeunes. Si ta cible est très, très jeune, donc que tu sois dans le FMCG, donc dans les produits de grande consommation, il suffit juste de faire des vidéos qui sont sur le format natif et dans les codes de ça. Il y a des gens qui sont aux États-Unis qui sont en train d'utiliser TikTok pour des dentistes.
Je demande à voir. Hein.
C'est excellent parce qu'ils sont en train de faire de parce que tu vois le dentiste quand on était petit, ça fait peur, ils vont m'arracher la dent, c'est affreux.
Même quand on est adulte. Hein.
Effectivement, parce qu'on a regardé le trauma de l'enfance, c'est normal. Mais là, justement, imagine que si tu es un dentiste qui soit un peu progressif et qui commence à communiquer sur les réseaux ou sans ses futurs patients et qui va les garder probablement à vie, il commence directement à pouvoir les éduquer sur les principes et machin. De toute façon, tu peux communiquer de manière ciblée.
C'est ce qu'essaie de faire Rémi, hein, que je salue, parce qu'il vient faire des chroniques dans Shazam de temps en temps, le docteur Bentaboula. Donc voilà, il communique énormément sur les réseaux sociaux, il fait des espèces d'histoires drôles, une espèce d'agrégat de ce qui lui arrive au quotidien. C'est super drôle, et ça fait pas complètement oublier la douleur. Mais c'est clair, ça rend dentiste plus humain.
Exactement,
et voilà.
Donc c'est ça l'idée. Donc maintenant, si on reprend tout ça, et on va aller vers la deuxième stratégie dont je t'ai parlé, qui va être super courte. Justement, tu as parlé de ce dentiste qui est en train de communiquer sur son quotidien. Mmh. Et là, ce qu'on va parler, la stratégie de documentation. Si tu ne sais pas quoi créer, donc au lieu de... Si tu n'as pas un espace comme ça pour pouvoir avoir des invités, etc. Donc tu peux aller, sur le podcast, la première stratégie. La deuxième, c'est juste documenter ta journée. Le fait de partager ce que tu es en train de faire et comment tu es en train de le faire et expliquer pour ceux que ça intéresse, ça va automatiquement t'attirer les gens qui sont intéressés par ce que tu es en train de faire. Et en termes de créativité, tu n'as besoin de faire zéro effort parce que tu es littéralement en train de filmer ce qui est en train de se passer pendant la journée. Et tant que tu es vivant, tant que tu as ta boîte, tu pourras créer du contenu.
Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Quant à toi qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à dimanche. La photo, la photo.